RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
La semaine dernière, l'INIR, l'Instance Nationale de Reconnaissance et de Réparation pour les personnes victimes de violences sexuelles au sein de l'Église, a présenté son rapport de 2023. Comment se passent les indemnisations de victimes suite au rapport Sauvé ? Qui sont les personnes qui se manifestent et comment sont-elles accompagnées ? On va en parler avec nos invités ce matin. Notez que dans la seconde partie de l'émission, on verra comment fonctionne une cellule d'écoute pour les victimes d'abus sexuels et autres blessures dans l'Église. On prendra l'exemple de la cellule du diocèse de Savoie. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Que pensez-vous de la création d'une instance comme l'INIR? Connaissez-vous des personnes ayant pris contact avec cette instance? Vous-même peut-être? Que pouvez-vous en dire? Et reconnaissance et réparation, comment accueillez-vous ces deux mots dans le contexte d'abus sexuels dans l'Église? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec ce matin, Véronique Alzur, rédactrice en chef Foi et Spiritualité. Bonjour Véronique.
Bonjour Melchior et bonjour à tous. À la suite du rapport Sauvé et de l'ampleur des abus qu'il révélait en 2021, une instance nationale de reconnaissance et de réparation pour les personnes victimes de violences sexuelles au sein de l'Église, l'INIR donc, a été créée. Reconnaissance et réparation. Il était indispensable d'offrir aux personnes victimes d'abus au sein de l'Église catholique, lorsqu'elles étaient mineures, la possibilité de faire une démarche en ce sens. Pour les personnes engagées au sein de l'INIR, il s'agit d'accueillir, d'écouter, d'accompagner et de décider, de trancher de la réparation, sachant que 97% des personnes accompagnées demandent qu'elles soient financières. Dans cette émission, nous allons nous pencher sur le rapport remis la semaine dernière et nous allons essayer d'en comprendre les chiffres, les tendances, les pourcentages. Mais il ne faudra pas oublier que derrière ces chiffres, il y a des blessures, parfois insondables, et des vies brisées. Il y a aussi beaucoup de résilience et d'énergie de vie. Cette émission consacrée à la publication de ce rapport, c'est donc aussi l'occasion de redire que l'INIR existe et qu'il n'est jamais trop tard pour engager une démarche de réparation. Finalement, il n'est jamais trop tard pour choisir la vie, Melchior.
Et oui, on va en parler avec nos trois invités jusqu'à 10h.
Marie Derain de Vaucresson, bonjour à vous.
Bonjour madame.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de l'INIR. À vos côtés, Lorraine Angenot, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes chargée d'expertise en psychotraumatisme et vous intervenez au sein de l'INIR. Et puis nous avons également le plaisir d'accueillir Geneviève. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous faites partie des personnes qui ont fait une démarche auprès de l'INIR et vous avez été accompagnée par ses membres. Vous avez également bénéficié d'indemnités que vous avez perçues il y a peu. Vous avez été victime d'un prêtre à partir de l'âge de 11 ans et les conséquences de ces abus ont été considérables sur votre vie. Vous dites que cette vie a été écartelée et que vous avez que longtemps vous vous êtes perdu. Alors j'aimerais commencer par vous Geneviève en vous demandant comment aujourd'hui la femme de plus de 80 ans que vous êtes se sent. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes apaisée ou ça n'est pas possible?
Oui, je peux dire que je suis en chemin. C'est encore une période, même à cet âge-là, on peut continuer à bouger. Et je pense que le côté, vous avez utilisé le mot écartelé, oui, c'est très, un mot très juste. C'était, moi, je le qualifiais, cet état, comme un état de division très profonde de mon être. Et cet écart entre une façade toujours souriante et agréable pour les autres, etc., et le fond de moi qui était torturé et qui n'arrivait pas à s'exprimer, cet écart est en train de se réduire et ça me surprend moi-même. Et de retrouver aussi une certaine joie toute simple de pouvoir bien rire avec les enfants. Avant, j'étais plus en retrait et je me tuais à travailler, tout le temps à travailler physiquement. Et ça, c'est comme si ça tombait tout doucement, ce vieil oripo, là. Alors, je peux maintenant accepter d'être dans un état, oui, de calme, de vide, et que ça me fait du bien, voilà.
On aura bien entendu tout au long de cette émission l'occasion de vous entendre, Geneviève, et puis d'évoquer, si vous le souhaitez, dans la mesure où vous le souhaitez, votre parcours. Marie de Rhin de Vaucresson, donc on a déjà eu l'occasion de dire dans quelles circonstances l'INIR a été créé. On va peut-être pas revenir là-dessus, sauf si vous pensez que c'est indispensable de le rappeler. Mais moi, j'aimerais qu'on comprenne comment ça fonctionne, surtout. Qui fait partie de cette instance? De qui relève-t-elle? Et après, on verra quels en sont les membres.
Alors, c'est une instance nationale et indépendante, comme l'indique son nom, c'est important. Donc, on peut dire qu'elle ne relève de personne. En revanche, elle a été décidée par les évêques de France à la suite du rapport de la CIAZ en novembre 2021. C'était une des principales préconisations, que les personnes victimes puissent obtenir reconnaissance et réparation. Ça, c'est le premier élément. Elle est financée aussi dans son fonctionnement par la conférence des évêques de France. Et puis, les réparations financières à destination des personnes victimes, elles sont financées par un fonds de dotation. Qui la compose? Ce sont, je dirais, trois catégories de personnes, principalement des juristes, des personnes expérimentées dans le soin, psychologues, mais aussi travailleurs sociaux, conseillères conjugales, médiateurs, et puis enfin le réseau aussi de l'aide aux victimes, avec près de 40 personnes aujourd'hui qui collaborent à l'INIR, 17 personnes référentes qui sont en relation directe avec les personnes victimes.
Lorraine Angenot, dans quelles circonstances est-ce que vous avez été amenée à faire partie de cette équipe? D'abord, est-ce que vous êtes une permanente? Est-ce que vous êtes salariée par l'INIR, de l'INIR, ou pas du tout? Vous intervenez à titre bénévole?
Au départ, j'étais membre du collège de l'INIR à titre bénévole parce que Marie de Rhin de Vaucresson avait repéré mes compétences de psychologue dans le traitement des états de stress post-traumatique des personnes victimes, pas forcément de violences sexuelles au sein de l'église. Je travaillais avec des personnes gravement malades et puis aussi avec des soldats qui revenaient de la guerre. Et j'avais développé de la recherche, de la capacité d'intervention dans ce domaine. Et il est difficile de travailler à l'INIR en se passant du concept de traumatisme. Et puis, les mois passant, le nombre de personnes qui restaient à accompagner était tellement important que j'ai rejoint à mi-temps, désormais à titre salarié, l'instance pour sensibiliser, former et aussi accompagner en direct des situations plus complexes.
Alors aujourd'hui, on en est, en tout cas au 31 décembre 2023, on en était à 1351 personnes victimes qui se sont adressés à l'INIR, 780 personnes accompagnées par un référent. On peut dire que 66% des personnes victimes sont des hommes. Marie de Rhin de Vaucresson, si vous deviez donner quelques chiffres concernant le rapport rendu la semaine dernière, quels sont selon vous les plus significatifs à souligner?
Alors d'abord, on peut faire une petite mise à jour, c'est-à-dire que les chiffres bougent tous les jours ou presque, en tout cas chaque semaine, on fait ce suivi-là et ça c'est important. 1401 personnes se sont adressées à l'INIR en fin de semaine dernière, donc vous voyez que des personnes continuent à solliciter l'instance. Ce sont plus de 850 personnes qui sont accompagnées aujourd'hui, 855, avec un nombre de décisions prises par le collège et de démarches abouti de 570. Donc ça, c'est des chiffres assez significatifs. Ça veut dire que le travail se fait, continue de se faire. On prend le temps qu'il faut aussi, parce que la dimension du temps est quelque chose d'important. Sur les chiffres significatifs, vous l'évoquiez en introduction, nous avons un léger rajeunissement qui s'installe dans le temps, c'est-à-dire que les chiffres de la CIAZ nous parlaient beaucoup de personnes de 70 ans et plus. Aujourd'hui, nous avons des personnes jeunes, parfois très jeunes, qui nous sollicitent, Quand je dis très jeune, c'est par exemple une jeune fille qui a moins de 20 ans et qui a été victime de violences sexuelles dans le cadre d'un établissement scolaire il y a moins de 10 ans. Et puis, nous avons dans les autres grandes évolutions, je l'évoquais, une forme de féminisation. De plus en plus de femmes qui s'autorisent à parler. Je crois que la libération de la parole était encore plus lente pour les femmes dans l'Église qu'elle n'avait été pour les hommes dans un premier temps, à la faveur du mouvement général dans la société d'ailleurs.
Alors, on va revenir bien sûr sur ces chiffres et puis sur d'autres. Mais Geneviève, dans quelles circonstances, vous, est-ce que vous avez pris contact avec l'INIR et comment avez-vous eu connaissance de cette instance, qu'elle existait et que vous pouviez vous tourner vers elle?
Oui. Moi, j'avais entendu parler d'une cellule d'écoute qui avait été mise en place par l'évêque d'Orléans, dont je dépendais à l'époque de mon histoire sur le tapis d'aujourd'hui, et c'est cet évêque qui m'a envoyé une lettre pour me conseiller, me dire que l'INIR existait et que je pouvais contacter. J'ai d'abord contacté la CEF, la Commission des évêques de France, en envoyant mon dossier, et puis après, quand j'ai su que l'INIR existait, j'ai envoyé ce même dossier à l'INIR. C'est comme ça que ça s'est fait.
Et une fois que le dossier est envoyé, combien de temps est-ce que ça a pris pour que ça aboutisse? Et on reviendra sur ce terme peut-être, Marie de Rhin de Vaucresson, tout à l'heure. Vous avez parlé de 570 démarches qui ont abouti. Pour vous, Geneviève, combien de temps est-ce que ça a pris?
Mon dossier à l'INIR en 2019, peut-être, oui. 2020, bah oui, parce que j'ai
non,
envoyé
pas 2019,
d'abord
ouais.
À la CIAZ, à la commission des évêques, et après
d'accord.
À l'INIR. Oui, c'est plus tard, c'est 2022, voilà.
D'accord,
l'INIR.
2022.
Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23 pour témoigner, nous parler de l'INIR. Peut-être que vous connaissez des personnes qui ont pris contact avec cette instance, peut-être même vous directement. Eh ben, n'hésitez pas à nous dire justement si ça a fonctionné. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Elzieux, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et donc avec nos trois invités, Véronique, Geneviève qu'on vient d'entendre, Lorraine Angenot et Marie de Rhin de Vaucresson.
Marie de Rhin de Vaucresson, comment se passe un parcours, je ne sais pas si le terme est adéquat, à partir du moment où une personne décroche son téléphone, appelle l'INIR ou envoie une lettre, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se déroule?
Alors le plus commun, et c'est souvent nécessaire de passer par cette forme-là, c'est un mail ou un courrier, puisqu'il y a aussi des pièces. Les personnes ont très souvent fait des démarches, comme vient de nous l'expliquer Geneviève. Les personnes se sont adressées à la CEF, à un diocèse, et donc elles ont déjà souvent donné des éléments de leur histoire, et pour éviter de les solliciter à nouveau sur le récit, notamment, c'est important que l'on puisse partir des éléments qui ont déjà été posés. Dans le cas de Geneviève, avec un témoignage à la CIAZ qui parfois a donné lieu à une audition formelle, hein, ça a été le cas de plus de 1800 personnes à la CIAZ, nous pouvons travailler à partir de ce récit et éviter de réactiver le trauma en obligeant la personne à réévoquer les faits dans un détail qui serait tout à fait délétère. Donc la personne s'adresse à l'INIR, plutôt par écrit comme je vous le disais, elle est rappelée très rapidement dans les 3 à 5 jours par la secrétaire générale, de manière à stabiliser déjà un certain nombre de renseignements, à vérifier que la personne relève bien de notre instance et pas de l'autre instance de la commission reconnaissance et réparation qui a été mise en place par la COREF. À partir de ce moment-là, se déroulent quelques semaines, idéalement, et un jour on sera dans un délai de moins d'un mois pour l'accompagnement. Aujourd'hui, on est encore dans un délai de plusieurs mois d'attente. La personne et à un moment donné informé qu'un référent a été désigné. Le référent prend contact avec la personne. Elles se mettent d'accord sur un premier rendez-vous dans la forme qui est souhaitée par la personne, au téléphone, en visio ou bien physiquement. Ça arrive que les personnes disent « mais moi, pour être pleinement en confiance, j'ai besoin de vous rencontrer ». Dans les cas vraiment difficiles où la personne ne peut pas se déplacer, c'est le référent qui peut être amené à se déplacer. Ça a été le cas très fréquemment au départ, c'est beaucoup moins le cas maintenant. Mmh. Et puis là, s'engage... un échange au cours d'un premier rendez-vous est identifié le diocèse où se sont déroulés des faits. Parallèlement, la secrétaire générale sollicite le diocèse pour savoir quelles sont les informations que le diocèse détient sur le prêtre ou la personne plus largement laïque ou claire désignée comme étant ayant commis les faits subis.
Donc vous croisez les informations.
C'est ça, on croise les informations, c'est le concept de confirmation de vraisemblance qui vise simplement à poser le principe que la parole est crue, que la personne est crue, que l'on prend en compte les faits tels qu'elle nous le décrit. Et puis, évidemment, pour des questions de responsabilité, on ne peut engager la responsabilité du diocèse qu'à partir du moment où les informations peuvent être confirmées dans un niveau de détail qui n'est pas la vérité vraie ou la vérité judiciaire, d'ailleurs, qui est rarement aussi la vérité vraie, mais qui est bien de confirmer la vraisemblance que ces faits se sont passés. Et puis, après ce moment-là qui peut durer 2 mois, 3 mois, le collège intervient et prend une décision pour évaluer la gravité de la situation avec un système d'appréciation du niveau de gravité qui donne lieu par équivalence à un niveau de réparation financière. Elle valide, le collège aussi valide les démarches restauratives et puis ensuite s'engage les démarches restauratives qui, selon leur nature, peut à nouveau prendre 2 mois, 3 mois.
Alors voilà pour le parcours. Lorraine Angenot, vous intervenez à quel moment ?
Alors, par exemple, en tant que référente de situation complexe, je vais prendre contact directement avec une personne dont il a été repéré en amont par l'équipe qu'elle présente un caractère d'urgence. Nous sommes amenés à prioriser des personnes qui soit sont dans une détresse psychologique ou psychiatrique très aiguë, soit des personnes dans des situations de misère sociale, de conditions de vie indignes, soit des personnes qui présentent des conditions de santé altérées, donc des personnes gravement malades ou en fin de vie. Et je vais intervenir pour contacter la personne, convenir avec la personne de comment elle souhaite que les entretiens se déroulent. Et les entretiens, là aussi, Marie Derain de Vaucresson le rappelait, c'est du sur-mesure. En moyenne, une personne victime va être écoutée par l'INIR 3 à 4 fois. Quand on dit 3 à 4 fois, ça peut être 3 fois ou 4 fois 2 heures ou plus. Mais les personnes que j'accompagne vont nécessiter plus de temps, d'être plus contenues. Et par exemple, j'ai pu accompagner une dame autour d'une quinzaine d'entretiens parce que la personne était dans un primo témoignage extrêmement traumatisé avec des symptômes de stress post-traumatique très très intenses.
Donc, ensuite, en tout cas, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a un vis-à-vis, enfin, il y a une personne en face de la victime. Ça n'est pas. Vous n'alternez pas, quoi. Il y a vraiment un référent et ça permet de créer une grande confiance, j'imagine, et d'établir même un lien.
En fait, la confiance, ce sont les personnes victimes qui nous l'attribuent. Nous mettons en place des conditions pour créer cette confiance, pour essayer de sécuriser au mieux des personnes qui ont été invalidées dans leurs paroles toute leur vie. Rappelons que la majorité de ces enfants, de ces adolescents, n'ont pas parlé, n'ont pas été crus, on leur a menti, ils ont été trahis aussi par les adultes et les personnes de référence supposées s'occuper d'eux, dans leur famille et dans l'Église. Et de fait, nous devons vraiment mettre en place un cadre de sécurité constamment, pour que la parole et les échanges soient constructifs. Le référent va ensuite écrire l'histoire de vie de la personne victime, ce qui s'appelle la synthèse. À tout moment, la personne victime va s'emparer de cet écrit, le modifier, le corriger, l'amender. Le récit est la propriété de la personne victime. La personne référente à l'INIR n'est là que pour structurer, organiser et mettre en valeur ce récit pour pouvoir le présenter au collège. C'est très important pour nous.
Et à la victime ?
Oui, bien sûr. La personne victime valide sa synthèse avant qu'elle soit présentée au collège. Je disais que ce qui est important pour nous, c'est d'être transparent sur ces documents dès lors que, justement, la transparence n'a pas été souvent rencontrée dans leur histoire avec l'Église.
Alors, on va poursuivre avec vous dans un instant, mais Geneviève, cette synthèse, je crois savoir que pour vous, et on vous avait prévenu, elle a été difficile à découvrir, à lire, parce que c'était votre histoire qui était couchée sur le papier du point de vue d'un autre ou d'une autre, et avec la distance que ça suppose. Qu'est-ce qui a été le plus dur finalement ?
J'ai pas entendu votre question.
Je disais que lorsque vous avez eu en main la synthèse rédigée par votre référent à l'INIR, c'est-à-dire le récit de votre de ce qui vous est arrivé, des abus que vous avez suivis, ça a été difficile pour vous.
Je pense qu'il y avait une espèce de miroir devant moi. Voilà, c'est ça qui est arrivé avec les mots de quelqu'un d'autre, avec comme si mon histoire était objectivée. Et ça a été très douloureux, mais je pense que ça a été salutaire et que cet éloignement qui me fait me réapproprier mon histoire est très important dans l'étape que je vis actuellement. Oui, c'est bien ça qui m'est arrivé, c'est bien moi. Je suis cette personne-là, alors que jusqu'à présent, il y avait une espèce de faille entre les deux. Et oui, et le travail qu'a fait mon accompagnatrice a été très beau parce que elle a su me prévenir et elle a su m'accompagner après quand je lui ai parlé de ça. Et j'ai compris que oui, c'était une étape, voilà, une étape très importante. Et le fait d'avoir ensuite obtenu réparation financière a encore accentué ça. Oui, c'est moi, je l'ai demandé, je l'obtiens et c'est pas du tout le côté de l'argent en lui-même, c'est le côté de ce qu'on vous offre comme témoignage. Oui, vous avez été victime, on le sait, on le reconnaît. Voilà, ça c'est très important.
Et la synthèse en question, Geneviève, le récit des faits était fidèle à ce que vous aviez raconté. Vous vous êtes vraiment reconnue et retrouvée dans les mots qui étaient utilisés ?
Oui, oui, oui. J'ai eu le temps, j'ai eu l'accompagnement pour parler de tout ça. Et c'était un très beau travail. Oui, oui.
On a souligné l'importance de la confiance à établir entre la victime et l'accompagnateur ou l'accompagnatrice. Ça a été votre cas aussi ? Et comment cette confiance s'est-elle petit à petit instaurée entre vous ?
L'accompagnatrice qui devait donc m'accompagner, moi, m'avait donné un rendez-vous par téléphone et elle a dû annuler ce rendez-vous en le repoussant d'une demi-heure, je ne sais plus, elle avait une obligation. Et de nouveau, elle a repoussé ce rendez-vous et j'ai senti en moi une colère monter alors que je suis plutôt du calme et souriante comme ça, mais il y avait quelque chose de très fort qui montait, comme quoi on me traitait encore comme un néant, quoi, et que je n'avais pas de valeur. Et quand elle a enfin décroché pour m'appeler, j'ai pu me laisser sortir ma colère. Je lui ai dit, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte dans quel état on est quand on attend un rendez-vous comme ça, qui est tellement important, et dans quel état on est à vif. Et vous avez encore accentué cet état. Voilà, j'ai pu sortir ça. Et à partir de là, tout s'est passé très bien et dans, oui, confiance et vérité. Voilà.
Et donc le lien entre vous a été très fort après ?
Oui, oui, oui. Fort, enfin, une présence là, qui est là, mais qui ne prend pas trop de place. Et qui vous laisse vraiment agir, poser des actes, poser des actes en mon nom, ça c'est très important. Et j'ai pu le faire. Et elle me proposait toujours de choisir. Est-ce que vous avez besoin qu'on se rappelle ? Est-ce que, enfin, c'était mon travail avec elle. Voilà.
Combien de fois l'avez-vous rencontrée ou avez-vous échangé avec elle, Geneviève ?
Peut-être quatre fois. Et puis là, au sujet de, c'est elle qui m'a proposé de participer à cette émission. Et elle l'a fait aussi avec toujours la même délicatesse, en me laissant complètement libre de choisir. Et en même temps, en me donnant confiance, en me disant, mais oui, vous pouvez, avec ce que vous avez vécu, ça peut rendre non seulement service à d'autres, mais à vous-même, vous aider encore à vous réapproprier toute cette histoire. Et c'est vrai. J'y pensais en préparant là tout à l'heure, je me disais, il ne faut pas avoir peur de ça, c'est encore une étape de se dire, c'est bien moi. Voilà, je suis dans cette histoire-là, c'est moi. Voilà. Et bon, ça paraît peut-être étrange pour les personnes qui entendent ça, mais la division est telle quand on a subi ça pendant des années, qu'il y a une espèce de voile qui recouvre une partie de la vie, et l'autre partie fait ce qu'elle peut pour subsister, pour exister, pour donner le change à soi-même et aux autres.
On va continuer d'en parler dans un instant avec nos trois invités, Marie Dorin de Vaucresson, Lorraine Angenot et Geneviève, et puis une auditrice qui s'appelle Geneviève d'ailleurs, qui nous rejoindra également au 04 72 38 20 23. Petite pause, à tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Il est 9h30 dans Je pense donc j'agis. On parle de l'INIR, l'Instance Nationale de Reconnaissance et de Réparation pour les personnes victimes de violences sexuelles au sein de l'Église, qui a présenté son rapport en fin de semaine dernière. Comment se passent les indemnisations suite au rapport Sauvé? On en parle jusqu'à 10h. I remember colors pattern in my eyes. Green was for the springtime, blue the summer sky. And now the skies have darkened, the red clouds turn to gray. What a way to break a heart. You took all the colors away. Dark black is the color of my life since you've been gone. Since you've been gone. Oh, if you come back, make my own. You've been gone. Dark black is the color of my life. I remember vision. You taught me how to see the world of your colors was right there in front of me. Belle chanson de Marie Sarah pour vous accompagner en ce lundi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec nos trois invités jusqu'à 10h, on continue de vous accueillir au 04 72 38 20 23. On accueille Geneviève tout de suite. Bonjour Geneviève.
Oui, bonjour Melchior. c'est un sujet qui, malheureusement, me concerne profondément et concerne quelqu'un de ma famille. Voilà. Et je ne sais pas quoi faire. J'ai ça sur le cœur depuis des années. C'est un de mes petits cousins qui, dans son adolescence, bon, maintenant il a plus de 50 ans, a été abusé pendant plusieurs années par un de mes voisins, qui n'est pas religieux, qui n'est pas clair, mais qui, c'est un laïc engagé dans l'église, hein. Il participe activement aux messes, il fait les lectures à la messe, enfin, etc., etc. Bon. Et lorsque j'ai appris cela il y a quelques années par sa maman, puis ensuite confirmé par lui, moi, c'est vrai que j'ai cessé toute relation, évidemment. C'était des personnes que je côtoyais, hein. Le monsieur et son épouse, je les côtoyais régulièrement. J'ai été dans un tel état de sidération, ça a réveillé aussi des traumatismes anciens, parce que j'ai des cousins qui ont abusé de moi quand j'étais petite. Enfin, ça, c'est une autre affaire. Là, je parle de mon cousin à moi. Et je me dis que... Alors, ce monsieur, il n'a jamais été inquiété, hein. Il vit paisiblement. Il mène sa petite vie tranquille. Mon cousin... A toujours des séquelles. Il a toutes les peines du monde. Il a plus de 50 ans maintenant. Il a toutes les peines du monde à trouver une stabilité, à la fois sur le plan personnel, sentimental et professionnel. Il le dit lui-même, qu'il a été marqué au fer rouge par ce qui s'est passé autrefois. Il n'a pas été cru par ses parents qui côtoyaient le fameux voisin, mais on lui a rionné, il n'a pas été cru. Et voilà, c'est une idée béante.
Et Geneviève, votre cousin, pardon pour cette question, il n'a jamais eu le courage non plus d'en parler depuis la publication du rapport Sauvé, par exemple?
Mais voilà, on en a beaucoup parlé ensemble, ouais. Parce que on a l'occasion d'échanger assez régulièrement. Il est comme résigné. De toute façon, les faits sont prescrits depuis très très longtemps. Ça servira à rien. Je crois qu'il a aussi un besoin instinctif d'oublier, de plus penser à ça, parce que ça l'a tellement, ça lui a fait tellement de mal que, je crois qu'il craint. C'est quelqu'un qui est fragile psychologiquement.
Ouais, c'est ce que vous nous avez dit, Geneviève, et on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner ce matin dans Je pense donc j'agis. C'est un cas d'école, c'est un cas intéressant, hein, Marie Dorin de Vaucresson, je me tourne vers vous. Que faire dans le cas de Geneviève quand on connaît quelqu'un qui a été abusé? Est-ce qu'il faut faire une démarche, peut-être à la place de la personne, ou c'est un petit peu délicat?
Alors, c'est tout à fait délicat de faire une démarche à la place de la personne. En revanche, ce qui est important, c'est d'avoir des relais possibles pour orienter la personne. Et c'est un petit peu la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui dans la société. Il n'existe pas trop peu de réponses pour des personnes qui ont été victimes par le passé, et par le passé, je dirais, tant ancien. Je laisserai plutôt Lorraine développer l'idée les réponses qui existent aujourd'hui dans la société et la difficulté pour les personnes quand ça s'est passé depuis longtemps.
Alors Lorraine Angenot, je vous passe la parole. Du coup, comment s'y prendre?
Comment s'y prendre? Il est important de pouvoir se tenir à côté d'une personne proche qui a vécu ou qui témoigne de faits de violence sexuelle durant l'enfance. Je rappelle qu'il est important, même quand les faits sont prescrits, de pouvoir occasionnellement saisir le procureur de la République. Et puis, si les faits ont été commis dans l'église, de nous saisir pour que nous puissions accompagner la personne en sensibilisant notamment aux effets du stress post-traumatique. Plus les violences ont été graves, répétées dans l'enfance, c'est le cas de 60% des personnes dont on s'occupe, pour lesquelles notamment les viols ont duré plus d'une année, donc ce sont des faits chroniques de violences sexuelles, plus les conséquences sont importantes, elles vont créer ultérieurement une dissociation de la personnalité, c'est-à-dire qu'une partie de la personne ne souhaite pas être en contact avec cette expérience douloureuse. Bien sûr, c'est un processus qui se passe de manière automatique, et une partie de la personne va garder néanmoins ses souvenirs traumatiques comme cachés de sa personnalité qui fonctionne apparemment tout à fait normalement, ce que disait Geneviève.
C'est une manière de se protéger.
C'est une manière automatique qu'a le cerveau de se protéger de violences extrêmes, et notamment chez les enfants. C'est vraiment, il faut sensibiliser les personnes au fait qu'elles n'ont pas, elles ne se dissocient pas volontairement. C'est une réaction en fait qui vise à couper le circuit quand la souffrance, la douleur physique, les éléments de peur, de terreur sont beaucoup trop intenses. Rappelons qu'aucun enfant et le corps d'aucun enfant n'est destiné à subir des violences sexuelles de la part d'un adulte. Après, ce qu'il faut aussi pouvoir travailler avec la personne qui est désespérée et pense que l'avenir est bouché, c'est là aussi que dans tout parcours de vie, il est possible d'être soutenu, de recevoir à un moment donné un soutien professionnel, ciblé. Nous orientons désormais le plus possible vers des stratégies de soins très ciblées.
Mais comme nous le disait cette auditrice, parfois la simple idée d'avoir à se replonger dans ce traumatisme est insupportable pour la personne. C'est au-dessus de ses forces et elle préfère, avec des guillemets, rester dans la situation dans laquelle elle est parce que ça lui paraît une épreuve supplémentaire.
Nous le comprenons très bien. Nous le comprenons très bien à l'INIR. Je rappelle aussi que les levées d'amnésie sont des périodes redoutables de déstabilisation psychique, corporelle, relationnelle. Nous sommes formés, nous sommes habitués à ces levées d'amnésie. Lorsque les personnes prennent la parole, elles ont la terreur de ne pas être crues, de ne pas être entendues et de rajouter une maltraitance supplémentaire à leur souffrance qui est déjà très intense. Il est très important de respecter le rythme et la manière de faire des personnes qui ont été traumatisées dans l'enfance, même si ce n'est pas la nôtre, et c'est un vrai obstacle. Cependant, nous conseillons vraiment à toutes les personnes qui ont des doutes, qui ne savent pas comment s'y prendre, de nous contacter, et notre équipe peut leur fournir des conseils et un accompagnement de manière à ce que ces signalements puissent être effectués envers la justice civile, envers la justice canonique ou envers les instances de reconnaissance et de réparation.
Marisia nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Marisia.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Ah oui, alors à propos de l'abus dont j'ai été victime quand j'étais adolescente, à 15 ans à peu près, je n'ai pas été violée à proprement parler, c'était des gestes déplacés, qui se répétaient toutes les semaines, car ce prêtre était mon correspondant, j'étais en pension et je devais, parce qu'on m'avait pas demandé mon avis, aller le voir tous les jeudis après-midi. Bon, c'est du passé. Comme je le disais à la dame que j'ai eue au téléphone tout à l'heure, je lui ai pardonné parce que c'est très difficile, très très difficile, mais il le faut, sinon c'est la double peine. Mais mon propos là, c'est que je ne comprends absolument pas ce que l'argent vient faire là-dedans. Comment l'argent peut-il compenser ce genre d'abus? Ça n'a absolument rien à voir. Ça me scandalise. Et je me demande si l'Église ne trouve... Comment se fait-il que l'Église ne trouve que cela pour compenser? L'Église, tout de même, il y a la prière, non? C'est pas la première chose qui vient à l'esprit quand on est chrétien catholique en particulier.
Merci beaucoup Marisia pour votre témoignage avec cette question que vous vous posez. Que vient faire l'argent dans ces affaires? Je me tourne vers vous Geneviève, vous êtes directement concernée. Comment vous entendez ce témoignage de Marisia?
J'ai plusieurs choses qui me viennent pour répondre. La première chose, c'est que en effet l'argent est un moyen assez étrange qui est proposé. Mais on m'avait proposé auparavant, par l'intermédiaire du diocèse d'Orléans, d'être invité à une cérémonie de repentir, pardon, de l'Église, etc. Et je n'avais aucune envie de répondre à ça, je n'en étais pas là, parce que je signale aussi que les abus et la violence qu'on subit peuvent complètement déraciner la foi, parce que l'amour n'a plus de sens, parce que la confiance n'a plus de sens, parce que celui qui représentait le sacré vous a utilisé, et que tout ça est tombé en morceaux.
et que donc l'argent est un espèce de moyen pour que quelque chose de concret et qui n'a pas justement trait à la prière, à la spiritualité, mais qui vous atteint par un autre biais, pour moi, c'était presque drôle. Je me disais, ah, voilà de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Ma vie n'a pas un prix qu'on peut estimer. Mais en même temps, j'ai vu aussi autour de... Quand mes enfants ont su ça, ils m'ont dit, bravo maman. Parce que pour eux, c'était une espèce de signature que quelque chose de réel, dans le réel, avait existé. Voilà ce que je peux dire.
Marie Derain de Vaucresson, j'aimerais vous entendre également sur ce sujet. Qu'est-ce que l'argent vient faire là-dedans? Et est-ce qu'une démarche... Et quelles sont les autres, d'ailleurs, les autres propositions que vous faites en termes de démarche restaurative?
Alors, sur la question de l'argent, Geneviève a déjà donné des éléments de réponse tout à fait intéressants qui sont en écho avec ce que nous disait le rapport de la SIAZ, c'est-à-dire qu'il faut manifester matériellement quelque chose de cette à la fois reconnaissance et réparation. Il ne faut pas oublier que pour un certain nombre de personnes, des dépenses conséquentes ont été faites en matière de soins, notamment. Et ce qui compte, je crois, c'est la question du sens que chaque personne pourra donner à cet argent, et en particulier dans une projection positive. En tout cas, dans la démarche de l'INIR, on invite souvent les personnes à réfléchir à cette question-là. Quel est le sens, quel sens elles donnent à cet argent et ce qu'elles souhaitent en faire? Non pas pour savoir ce qu'elles vont en faire, mais pour les aider justement à donner un caractère très concret à cet argent. Et ce que l'on peut observer, c'est les idées, je dirais, extrêmement positives et reconstructives que les personnes ont au travers de l'argent. Je pense à une personne, par exemple, qui a fait un verger pour ses enfants et petits-enfants en particulier, qui pourront récolter les fruits. Alors si ça, c'est pas une dimension évangélique, pardon, d'y voir quelque chose de cette nature-là. Il nous a dit, au point presse jeudi, en quelque sorte, on passait du fruit défendu, il doit y avoir des pommiers dans ce verger, au fruit qui redonne la vie et qui transmet la vie. C'est absolument magnifique. Il y a une personne aussi qui a souhaité organiser dans l'église où ont eu lieu les sévices, les faits, un concert pour qu'il y ait du beau dans cette église. C'est quelqu'un qui est passionné de musique et il veut qu'il y ait du beau dans cette église et il veut le partager avec d'autres, notamment dans une démarche de vérité, de réconciliation, d'apaisement avec l'ensemble de la communauté. Donc la question de l'argent, elle n'est pas anodine, c'est un vrai marqueur de la reconnaissance, de l'engagement de l'église aussi auprès des personnes victimes.
Mais il y a d'autres manières d'être réparé ou d'engager une démarche restaurative.
Absolument. C'est la question de comment on contribue à la réparation des personnes. Personne ne prétend à l'INIR réparer intégralement les personnes. Mais en revanche, notre démarche contribue, ça c'est certain. Les autres démarches sont très très nombreuses et variées. Elles sont beaucoup beaucoup autour du dialogue et de la recherche de la vérité, avec médiations, avec l'accompagnement pour pouvoir en parler à ses enfants. Des accompagnements qui permettent, sur des modes de médiation tout à fait formels, d'échanger avec l'évêque responsable du diocèse où se sont passés des faits, par exemple, et où on a mal répondu à un moment donné à la personne ou insuffisamment répondu à la personne. Ça peut passer aussi par l'écriture, ça peut passer aussi par des démarches beaucoup plus artistiques. Tout est possible.
Lorraine Angenot, est-ce que le symbole est important dans ce genre de démarche? Quel poids peut-il prendre? Marie Derain de Vaucresson vient de parler de concerts, alors on a parlé de l'argent. Est-ce que ce sont aussi des démarches restauratives symboliques?
Tout à fait, parce que c'est l'entièreté de la personne qui a été violentées, brisées, qui en portent les conséquences. Les démarches restauratives d'ordre symbolique s'attachent à restaurer la globalité de la personne. C'est important de noter que c'est toujours la personne victime ou qui a été victime qui va choisir ce qui lui convient. Elle renouvelle son pouvoir de décider sa liberté de dire non, sa liberté de dire oui, sa liberté de ne pas faire de démarche restaurative. La moitié des personnes souhaitent s'arrêter à une démarche purement financière qui peut contribuer à leur réparation comme elles le souhaitent, et nous n'avons aucun sujet sur le fait que les personnes utilisent comme elles le souhaitent la somme qui leur est allouée. Cependant, la moitié des personnes continuent le chemin avec nous parce que ces symboles remettent du sens, remettent du lien et permettent d'intégrer cette histoire à une histoire plus large. Au-delà d'un destin singulier, d'une personne victime, c'est une histoire collective. Le rapport de la CIAZ l'a bien montré. Et dans les démarches restauratives auxquelles j'ai pu assister, il y a aussi parfois des personnes victimes du même agresseur qui demandent à se rencontrer afin de vérifier qu'elles n'étaient pas les seules quand elles étaient enfants. Et ce sont des démarches que nous accompagnons aussi.
Marie Derain de Vaucresson, parmi les tendances intéressantes à souligner, il y a le fait que le nombre de personnes qui se manifestent auprès de l'INIR est plutôt en baisse. Depuis quand et comment interprétez-vous ce chiffre ?
Alors, je dirais que la plupart des personnes victimes, hein, sur des 1401 personnes, se sont adressées à l'INIR dans les mois immédiats qui ont suivi sa création. C'est-à-dire que, d'ailleurs Geneviève le rappelait, elle a été invitée par son évêque à se manifester auprès de l'INIR, puisque nous avions adressé un courrier aux évêques au début de l'année 2022 en les incitant à faire un courrier personnel à chacune des personnes victimes qui s'étaient déjà manifestées dans les diocèses, de manière à s'assurer que l'on rejoindrait au moins toutes celles qui s'étaient déjà manifestées. Et parmi les personnes qui ont étaient destinataires de ce courrier, un certain nombre ont dit aux évêques eux-mêmes ou bien à l'INIR. Moi, ce qui compte, c'est que cette instance existe, c'est que le rapport de la CIAZ ait fait la clarté sur la situation. Je ne souhaite pas entrer dans la démarche. On ne l'a pas chiffré au moment où on a adressé ce courrier, mais c'était une part importante. Pourquoi les chiffres diminuent? Bien parce que l'attente était très très forte après la CIAZ. Rappelez-vous, le coup de tonnerre de la remise de ce rapport en octobre 2021. Donc les personnes étaient dans l'attente, elles se sont adressées très vite à l'INIR et 1000 personnes en septembre 2022 s'étaient adressées à l'INIR. Pourquoi le chiffre diminue depuis? C'est parce qu'on a des personnes qui ont trouvé des réponses par leurs propres moyens, bien évidemment. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas rentrer dans cette démarche, encore une fois, parce que l'Église a reconnu, et ça, cette reconnaissance formelle en novembre 2021 à Lourdes était extrêmement importante. C'est vraiment une des étapes de l'apaisement collectif des personnes par laquelle il fallait passer. Et puis, il y a des personnes qui, aujourd'hui, sont encore dans la difficulté de pouvoir s'adresser à nous, quand bien même tout l'accompagnement ne repose pas tant sur les faits eux-mêmes, sur ce que les personnes ont subi, mais plutôt sur les conséquences tout au long de leur vie et du lien que l'on peut faire entre la manière dont s'est déroulée leur vie, leur état aujourd'hui et les faits qu'elles ont subis. Il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes à témoigner, donc c'est aussi pour ça qu'il nous faut un peu de temps pour pouvoir accueillir ces personnes et puis aussi s'assurer que toutes les personnes qui souhaitaient s'adresser à l'INIR ont pu le faire.
Une question de Jean-Jacques par mail. Ces personnes ont-elles, en parlant des victimes bien sûr, ces personnes ont-elles entamé une action auprès de la justice française qui est en charge de faire obtenir réparation et dédommagement dans ces circonstances? Je trouve ça assez intéressant, Marie Derain de Vaucresson. Ou Lorraine,
oui,
comme vous voulez.
C'est un préalable par lequel on aurait dû commencer, puisque cette réponse que l'Église a souhaité mettre en place n'existe que parce qu'aucune autre réponse n'est possible, en particulier dans la justice civile. C'est parce qu'il n'y a pas de réponse possible que nous intervenons. Et évidemment, nous n'intervenons que si la justice civile ne peut plus intervenir. Et ça veut dire que, comme le disait Lorraine Angenot tout à l'heure, dans un certain nombre de situations, nous accompagnons les personnes à s'adresser au procureur de la République, puisque c'est la seule personne qui peut dire si les faits sont prescrits ou pas. Quand l'auteur est mort, il n'y a évidemment pas de difficulté, puisqu'il y a une prescription, une extinction de l'action publique du fait de la mort de l'auteur des faits. Mais dans le cas où l'auteur est vivant, c'est, encore une fois, le procureur de la République est le seul à pouvoir dire si les faits sont prescrits.
Geneviève, est-ce qu'il vous paraît évident que il n'est jamais trop tard, quoi, qu'il n'y a pas de prescription concernant la possibilité d'entamer un parcours qui remet debout.
Ça me paraît non seulement évident, mais plein de promesses. Quand j'entends là, parler de quelqu'un qui ne peut pas faire cette démarche par peur de remuer, mais il y a tellement de gens qui sont compétents et qu'on peut choisir pour nous aider à avancer et à ouvrir cette espèce de coque dans laquelle on est enfermé, une coque protectrice, et après... On commence une nouvelle vie peu à peu. C'est quand même, ça vaut la peine de se donner du mal. Il y a des thérapeutes, il y a toutes sortes de formes d'accompagnement, et il y a aussi des soins. Moi, je sais que une gynécologue a été à l'origine de ma démarche parce qu'elle m'a dit mais madame, sur le plan anatomo-physiologique, vous êtes normale, parce que j'étais aménorrhéique. Et je ne comprenais absolument pas d'où ça venait. Et elle m'a dit, vous pourriez aller voir un psy. Elle m'a dit ça très délicatement. Et ça a été le début de ce travail de vérité, là. Donc, oui, je peux que conseiller ça, mais je n'ai pas de conseils à donner. Mais je peux dire que les étapes de tout ce que j'ai vécu, là, prouvent que, oui, on peut changer, on peut avancer dans la vérité et le retour vers ce moi profond qui a été tellement abîmé.
Et dans le sens d'une unification ou d'une réunification de la personne, parce que Lorraine Angenot le soulignait tout à l'heure, il y a une dissociation. Vous en avez témoigné également, Geneviève. Une partie de la personne est en sourdine, est enfermée. Et l'enjeu, finalement, c'est ça, c'est d'être réunifié, d'être unifié en tant que personne.
Unifié et d'avoir un regard bienveillant sur soi-même, alors que le fait d'avoir subi des choses, une maltraitance, moi, c'est comme si je l'avais intégré en moi et que je me maltraitais moi-même. Hein, depuis des années, maltraité au sens de ne pas faire attention à ses goûts, ne pas faire attention à ce qu'on ressent physiquement, se maltraiter en travaillant trop jusqu'à l'épuisement, etc. Et que ça peut changer et qu'on peut redevenir s'aimer soi-même. C'est quelque chose que je suis peut-être en train de redécouvrir tout doucement. Voilà.
Et c'est important aussi pour votre entourage ? Vous disiez que vos enfants étaient fiers de vous et de cette démarche que vous avez faite et qui vous a certainement demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de courage.
Et ils sont d'un accompagnement précieux, de délicatesse et d'une espèce de fierté, alors que j'aurais pu être condamnée d'avoir accepté ce genre de sévices. Mais non, ils ont. C'est
et comme puis condamné aussi du reste de la vie que vous avez eue, qui n'a pas été facile. Vous le disiez, hein, vous êtes vous-même malmené. Mais aujourd'hui, ils sont fiers de vous.
Oui, c'est ça.
Marie Derain de Vaucresson, pour terminer, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs qui ont écouté cette émission, qui connaissent l'INIR, mais qui hésitent?
Alors, il y a les personnes victimes qui sont celles à qui on a envie de s'adresser en premier lieu. N'hésitez pas, l'INIR a développé un professionnalisme, des compétences qu'évoquait Geneviève à l'instant, qui sont solides et qui prendront le mieux en considération tous les attentes et les besoins des personnes victimes. Et puis l'autre parole, c'est que j'ai envie de partager, c'est vraiment de dire que chaque personne, en particulier membre de l'Église, doit être bienveillante avec toutes ces personnes victimes. Les chemins sont très individuels, il faut les respecter. On ne peut pas juger on ne peut pas juger les démarches qui sont accomplies par les personnes victimes.
Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été avec nous. Marie Derain de Vaucresson, présidente de l'INIR, Lorraine Angenot, chargée d'expertise en psychotraumatisme aux intervenants au sein de l'INIR. Et merci beaucoup à vous Geneviève d'avoir accepté de participer à cette émission et on espère qu'elle vous a fait du bien, comme vous a dit la personne qui vous a accompagné au sein de l'INIR. Un grand merci à vous.
Merci à toutes les trois. Merci Véronique Algier pour cette émission. Une autre piste, on va en parler dans la seconde partie de Je pense donc j'agis, c'est de se rapprocher d'une cellule d'écoute dans un diocèse. On va entrer dans les coulisses d'une cellule d'écoute avec vos appels toujours au 04 72 38 20 23. À tout de suite.